du matin du lundi. Sylvain Saint-Don qui est avec moi ce matin, pas de Max. J'ai failli faire la blague de « on n'est pas en 2056 », là. Max n'a pas vieilli de même en une fin de semaine.
Merci beaucoup, Gilles, c'est gentil.
Ça, j'ai dit « j'ai failli faire la blague ».
T'as bien fait de ne pas le faire, Gilles.
C'est bon.
Cool. Oui.
Ouais. Comment ça va?
Ça va pas pire. Beau matin, parler de baseball avec une nouvelle de hockey comme on vient d'avoir.
Ben ouais, j'espère qu'il y a du monde qui vont regarder, qui ne seront pas tous en attente de la conférence du Canadien de tantôt. Des grosses nouvelles, mais comme tu dis, on va jaser de baseball là, ce matin. Hein?
Oui, complètement. J'ai un petit sujet pour toi qui est bien le fun, qu'on entend parler beaucoup, JF, qui est la détection de talent, puis l'identification, détection de talent. Je voulais adresser ça un petit peu parce que c'est... on a fait faire une étude de baseball à partir de février dernier, 2020, février 2020. Un peu comme le hockey est en train de faire présentement, un peu le même genre là, pour étudier notre structure, voir comment on accompagne nos athlètes dans le haut niveau, etc. Puis il y a eu des conclusions intéressantes là-dedans, puis c'est un petit peu de ça que j'aimerais qu'on parle le matin, malgré le fait que Marc Bergevin va occuper pas mal la place au niveau médiatique, là, mais au moins qu'on se lance un peu sur cette piste-là un petit peu. Là.
Ah ouais?
Ben oui,
En fait, non, j'allais te poser la question parce que dans ton sujet que tu m'as parlé, tu m'as dit on va parler de détection et d'identification de talent. C'est quoi la différence entre les deux?
Oui, bonne question. détection de talent, faut expliquer à quoi ça sert premièrement. C'est que toutes les fédérations doivent à chaque 4 ans, chaque cycle olympique, présenter au ministère de l'Éducation, parce que la grande surprise de bien des gens, c'est notre boss suprême, c'est le ministère de l'Éducation. Les fédérations sont sous l'égide du ministère. Puis on doit préparer ce qu'on appelle le modèle de développement de l'athlète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner notre athlète pendant les 4 prochaines années? Qu'est-ce qui va être mis en place? Puis, évidemment, un des morceaux très, très importants, c'est l'identification puis la détection de talent. Si on parle de détection de talent, Jeff, c'est d'amener un processus qui fait en sorte qu'on peut recenser plusieurs bons jeunes joueurs de baseball, puis de dire, eux autres sont peut-être à surveiller, là. Eux autres, il faut peut-être les mettre dans un contexte qu'on pourrait favoriser le talent. Puis, quand on arrive à l'identification de talent, ben là, j'ai l'image de pointer du doigt, de dire, OK, toi, Jeff, tu t'en vas là, dans cette équipe-là, dans ce processus-là, parce qu'on a identifié que tu es plus talentueux que les autres, présentement.
OK.
Puis, qu'est-ce qui est tweaké un peu, c'est que la grande question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand qu'on fait ça? On fait ça pour un joueur de 24 ans, pour un joueur de 13 ans, un joueur de 11 ans. Puis c'est là que tous les sports pataugent un peu là-dedans entre le fait de dire « OK, on commence à faire ça à partir de tel âge ». Parce que sur la planète présentement, Jeff, là, il n'y a aucune étude qui prouve qu'on est capable d'identifier un talent à 11 ans, 12 ans. Puis quand on parle d'identifier de talent, là, on a beaucoup dans la tête que « OK, ce joueur-là va jouer dans les majeurs. Ce joueur-là va jouer dans la Ligue nationale de hockey ». Non, c'est pas tout à fait ça. Identifier le talent, c'est peut-être… J'aime beaucoup dire le mot « en avance ».
Ouais.
Peut-être que certains athlètes qui sont en avance sur d'autres, ils ont développé physiquement plus tôt que les autres. Donc, ces personnes-là, on peut les accompagner dans tout le processus. On peut les accompagner un peu plus tôt. Ce qui fait peur aux gens avec raison, c'est de dire quand on n'a pas détecté ou identifié un talent, est-ce qu'il est oublié, cette kid-là? Est-ce que cette athlète-là, on n'entend plus parler? Puis, c'est ça que les structures doivent faire attention, de toujours laisser une petite porte d'ouverture pour qu'on puisse prendre un autre athlète qui s'est développé beaucoup plus tard, qui a vraiment répondu à l'appel 3, 2, 3, 4 années plus tard, puisque sa croissance est arrivée plus tard, ou il a cliqué au niveau technique, puis il a réussi à parfaire son talent, puis là, lui, il faut le faire rentrer dans la structure.
Oui, parce que j'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'on va prendre quelqu'un qui se développe beaucoup plus rapidement. Là, j'ai beaucoup le hockey en tête, là, mais quelqu'un qui, parce que le repêchage, justement, au hockey, on parle de le faire plus tard pour laisser le temps de se développer. Je ne sais pas si ça va être une bonne chose, mais quelqu'un qui se développe très rapidement va être pris tout de suite parce qu'on ne veut pas avoir peur de manquer un talent qui était évident, puis finalement, peut-être qu'il ne va pas arriver à terme avec les années, tandis que le jeune qui se développe plus tard va être pris ou pas pris, puis on va l'échapper, ce talent-là. Fait qu'on a, ça arrive plus souvent qu'on échappe des talents que de sélectionner trop rapidement quelqu'un, parce que tout le monde l'aurait pris de toute façon parce qu'il était tellement bon, puis tout ça. Puis finalement, ben, son talent, quand il arrive avec les vrais, ben, il s'est juste développé plus vite. Là.
C'est moi, puis tu sais, quand on parle de détecter le talent, Sidney Crosby, il n'y a pas grande détection. Là, je veux dire.
Non,
c'est ça. C'est clair, là. C'est pas de ça qu'on parle. Puis il faut distinguer aussi, tu sais, détection, on a une grosse base de joueurs, on a notre. On identifie 200 joueurs peut-être dans cette détection-là, puis dire, OK, comment on peut les accompagner, ces joueurs-là, etc. Puis on arrive dans l'identification qu'on pointe du doigt. Puis je te dirais, le repêchage serait une hyper identification professionnelle. Donc, mm-hmm. ce serait même une autre étape qui appartiendrait pas aux fédérations. Nous, notre job comme fédé, c'est d'emmener le joueur le plus proche possible de cet événement-là. D'ailleurs, je te relance sur une terminologie que tout le monde a déjà entendue, puis que le ministère de l'Éducation a justement changé dans son dernier modèle. Il y a un ouvrage très intéressant, si les gens veulent lire, ça s'appelle le développement du talent sportif. C'est un manuscrit du ministère de l'Éducation. C'est quelque chose qu'on s'est servi pour justement refaire notre modèle de développement, un peu les études qui ont été faites là-dedans. Puis c'est très bon, c'est un très bon point. Puis on mentionne justement que le talent peut se promener, peut être découvert à différents endroits, etc. Ça demeure quelque chose de bien fun. Puis dans le manifeste, on parle de spécialisation appropriée. C'est quoi ce terme-là? C'est comparément les sports, on avait le vocable de dire « Ah, ça, c'est un sport à développement tardif. Ça, c'est un sport à développement hâtif. » Plus bel exemple, facile à saisir, la gymnastique avant, quand c'était il n'y avait pas de limite d'âge, ben les petites filles allaient aux Olympiques à 13 ans, 14 ans, 12 ans. Là, je suis pas un expert en gymnastique, mais très, très jeune. Fait qu'évidemment, on avait compris que c'est un sport à développement hâtif. Puis le baseball, qui est la moyenne d'âge la plus vieille de tous les sports professionnels en Amérique. On parle de 26 ans.2, ma dernière lecture. Là. Donc, à 26 ans, on parlait vraiment d'un sport à développement tardif. Donc, on se disait, ben, ça ne sert à rien de se presser, Jeff, c'est un sport à développement tardif. Mais ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est que notre joueur devienne bon à 20, 21 ans, 22 ans, il passait à côté d'un paquet de belles opportunités. Puis nous, pour le joueur de baseball au Canada, au Québec, les opportunités, c'est quoi? C'est l'équipe nationale 18 ans et moins. Donc, Team Canada qui va au championnat du monde, U, qu'on appelle pour les 18 ans et moins. Donc, c'est une énorme vitrine. Les collèges américains, où les collèges commencent à regarder nos joueurs dans le coin de 16-17 ans. Puis le repêchage du baseball majeur, qui est après avoir fini le high school, donc le secondaire 6 chez nos amis anglophones et américains. Et puis nous, c'est en secondaire 5. Donc, toutes les opportunités arrivent dans le coin de 17-18. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être bon à 19, 20, 21. On va tout manquer ces opportunités-là. Peut-être qu'on va atteindre les majeurs, mais on peut pas, comme organisme, faire quelque chose en fonction d'atteindre seulement les majeurs. On va tout manquer. C'est pas ça qui est le but. C'est l'accompagner pour les opportunités. Donc, à ce moment-là, quand le ministère parle de spécialisation appropriée, ça veut dire qu'à partir de quand qu'il faut commencer à mettre pas mal tous nos œufs dans le même panier? Là. À partir de quand qu'il faut commencer à foncer et dire, OK, là, regarde, les opportunités sont là, dans le coin de 17-18 ans. Ça veut dire qu'il faut peut-être trouver le moyen de commencer à prendre une structure qu'à partir de 15-16 ans, on va avoir un impact sur le jeune, puis même, je te dirais, même 14-15, pour qu'il profite des opportunités à 17-18 ans. Donc, c'est un petit peu ça qui est la nuance par rapport à l'ancien jargon qu'on entendait entre spécialisation appropriée et développement à long terme de l'athlète un peu. Là.
OK. Donc, le baseball, parce que là, tu parles de 14-15 ans, c'est pour toi, c'est spécifique au baseball, parce que j'ai l'impression que les sports d'équipe sont majoritairement à développement tardif, beaucoup plus, ou étaient comme ça, de mémoire.
Mais tu as raison, tous les sports collectifs sont à développement tardif. Il s'agit d'identifier les opportunités aussi qui se fait, tu sais. Qu'au baseball, qu'on soit bon à 20-21, tu sais, pour aller jouer dans le junior élite, dans la ligue senior, c'est le fun, mais on manque quand même des opportunités. Donc,
oui.
L'idée, le concept, c'est d'essayer de devenir bon plus tôt. Normalement, tu vas pas devenir non plus moins bon à 19, 20, 21. Tu vas continuer ton ascension. Mais c'est de mettre des choses en place pour que ce développement-là se fasse plus tôt. Tu parlais du hockey, de repêcher. Encore là, il faut faire la distinction entre repêchage et mettre en place une structure d'accompagnement pour les athlètes, tu sais. Puis au hockey, t'as un bon point, là, j'avais lu, je pense, c'est un article de Martin Leclerc qui parlait de, peut-être c'est un autre journaliste, mais qui parlait justement du repêchage des premières rondes au hockey, puis que il n'y a pas tant que ça là, qui joue en haut. Là. C'est comme, c'est pas une science infuse. Puis Jeff, sans défendre nos amis de hockey, je te dirais que les sports collectifs ont une difficulté de plus qu'on n'a pas au baseball en passant. J'aime bien dire que le baseball, on est un faux sport collectif. C'est un sport de match-up individuel, de confrontation, qui c'est le cumul de ces confrontations-là. Donc, quand je suis seul avec le lanceur, j'ai beau avoir un bon chanceur, ça ne changera pas tant que ça, mon affaire. Tu sais, je suis obligé de vivre cette confrontation-là. Le hockey, le soccer a des éléments, le basketball, des éléments collectifs qui viennent très durs à analyser, je pense, pour nos spécialistes de hockey, à savoir que je peux mettre une note, moi, je peux arriver et dire tel lanceur lance à 92 000 à l'heure, c'est clair, je l'écris, c'est tangible, c'est un chiffre. Il court 40 verges en 4,5 secondes. Je peux l'écrire, je l'ai. On voit de la vitesse dans le corps de l'athlète. Il frappe la balle, puis la balle quitte son bâton à 102 000 à l'heure. La balle fait 360 pieds, 400 à pied. JF, là, je vais analyser le talent avec ça. Je ne me tromperai pas bien. Je vais voir qu'il y a du talent. Il est capable de le mettre en match. C'est peut-être une autre histoire, mais je vois qu'il y a du talent. Au hockey, comment tu analyses le démarquage, d'être capable d'avoir une bonne vision du jeu, tu sais, tu vas lui donner une note qualitative, mais c'est très dur. Il y a des joueurs de hockey que tu te dis, ben, mes amis de soccer vont parler de Lionel Messi, là, puis encore là, je ne veux pas trop m'aventurer, je ne suis pas un expert de soccer, mais selon eux, Messi, ce n'est pas lui qui a le coup de pied le plus dévastateur, ce n'est pas lui qui a le meilleur jeu. C'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est donc peut-être le meilleur.
Ouais. Mais je fais le lien avec Sidney Crosby. C'est pas le gars le plus talentueux au hockey, mais c'est un grinder, là, pour utiliser le terme, par excellence. Il est bon dans tout. Il est meilleur que juste moyen. Talent, mais...
acharnement,
exact, c'est ça, exact. Mais côté talent, c'est pas lui qui a le meilleur lancé, c'est pas lui qui a le meilleur coup de patin, mais c'est ça, c'est le meilleur.
c'est ça. Fait que les sports collectifs sont un peu pris avec ce côté-là, un petit peu moins tangible de dire, OK, ce joueur-là, il va se démarquer, tout ça. Puis par la suite, ben, là, c'est sûr qu'on parle du repêchage du Canadien de Montréal, ça va tapisser les manchettes, mais est-ce que c'est le meilleur joueur disponible, fit bien dans le puzzle que j'ai d'équipe? Tel défenseur, puis là, encore là, je ne suis pas un spécialiste d'hockey, mais un gars comme Petri. Tu sais, première paire de défense, c'est-tu sa place? En deuxième paire de défense, tu viens de faire ça? C'est tout ça qu'une équipe collective doit avoir, parce que t'affrontes des adversaires de talent.
Oui. Ma question pour toi, on fait ça comment à partir de là, une fois que tu nous as expliqué c'était quoi la détection de talent? Comment qu'on fait ça comme fédération? On a l'ABC, on a des personnes comme toi, on a des sports-études. C'est quoi le processus pour les jeunes de 13, 14, 15 ans montant?
Ben, c'est ça, c'est exactement un peu ce qu'on est en train de mettre sur pied. On va annoncer cette semaine des changements qu'on a. L'important, comme je te disais, c'est être capable de créer une structure où on peut intervenir rapidement. La firme qui a fait, c'est la firme Better Sports, en fait, la firme d'Ottawa, qui a fait un peu l'analyse de toute notre structure. T'sais. Puis, elles ont mentionné que notre expertise, nos professionnels du baseball devaient intervenir plus tôt dans le processus. On devrait avoir un impact dans le coin de peut-être 13, 14, 15 ans. Je te dirais, Jeff, c'est assez documenté dans la science qu'avant la poussée de croissance, là, on appelle ça la poussée soudaine de croissance, là, où nos grandeurs de bras, tout notre corps grandit. Ouais. Avant que cette poussée-là arrive, là, c'est comme presque impossible d'être capable d'identifier du talent. Okay. Si tu n'as pas des longs segments au baseball, une grande catapulte pour lancer la balle fort, des grandes jambes pour être capable de te déplacer rapidement d'un point à l'autre, etc. Je te donnerais l'exemple du golf. Frappe ton coup de départ avec un boire versus un putter, tu risques d'être déçu là, des deux. C'est un peu ça, la grandeur des segments est importante. T'sais. Pour un LTV de ce monde, tu as beaucoup plus de judges et de monstres là, dans le sport professionnel. Donc, c'est, tant qu'on n'a pas cette poussée-là, on ne peut pas arriver et dire à un jeune de 11 ans, de dire, ah, lui, il faut faire quelque chose pour lui. parce qu'il est tellement talentueux qu'il faut. T'sais, à moins qu'il soit plus gros que les autres, plus costaud que les autres, plus dangereux pour les autres, parce qu'il frappe la balle plus fort, avec nos terrains, des fois un petit peu louches, là, il peut être dangereux pour les autres enfants de 10-11 ans. C'est peut-être là qu'on pourrait peut-être le monter de catégorie, en guillemets, pour éviter ça. Mais en général, il n'y a rien qui doit. Il n'y a pas d'offre de service qui doit être donnée à des personnes qui n'ont pas encore commencé la puberté vraiment, qui n'ont pas eu leur coup de croissance. Donc, je te dirais, en Amérique, là, on parle entre 13 et 15 ans, là, on va dire 14, là, dans le tout. Puis, c'est toujours comique parce qu'avec Yannick Desjardins, on supervise les championnats provinciaux de chaque année. Tu sais, puis on fait celui anciennement Pee-wee vocal, 13 ans et moins, puis Bantam, qui est 15 ans et moins. Puis on se promène on a des arguments par rapport à lequel qu'on voit les physiques disparates, tu sais. Puis nos deux dernières évaluations sommaires sur le terrain, c'est clair, c'est aux 13 ans et moins, là, c'est incroyable comment il y a des jeunes qui dépassent les autres d'une tête, etc. Puis d'autres, c'est des petits-enfants. Puis
ah ouais, c'est clair.
Très disparate là-dedans, tu sais.
Ah ouais.
Je te dirais que, pour répondre à ta question, on serait beaucoup de mentionner qu'à partir qu'on a cette petite croissance-là, là, donc des 13 ans qui ont entamé leur croissance, qui viennent de, c'est des 5 et 6, 5 et 7, 140 quelques livres, ils lancent la balle à telle vitesse, COVID, ça serait pas mal ceux-là qui seraient commencés à être dans l'œil du tigre, d'être commencé à regarder pour dire, OK, on passe à un autre niveau avec eux, on leur donne-tu un parcours qui serait intéressant, etc. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va dévoiler. Donc je peux pas tout dire, Jeff, sinon
j'ai
éliminé, là, malheureusement. Mais il faut que je garde ça secret, mais on est là-dedans, on est dans ce processus-là.
J'allais te demander si les parents avaient un rôle justement à jouer dans la détection de talent. Un rôle qui peut être justement de se tenir à jour, sont où les camps d'entraînement, sont où. Puis il faut qu'il y ait un lien, j'imagine, entre la Fédération de baseball et les parents pour le développement de leurs jeunes. Puis je vais juste aller une question parce que je l'ai sur Facebook, puis je connais ton opinion là-dessus, mais il y a une maman, ou je pense que c'est une maman. Est-ce qu'un jeune joueur gagne à faire du baseball à l'année ou avec camp de perfectionnement ou bien d'inclure d'autres sports développera mieux son enfant?
Ah, oh, j'aime ça comme question, t'as raison.
Ah.
faut qu'on savoir, là, parce que je suis aussi responsable, évidemment, à la Fédération des sports études. Ouais. Puis c'est un gros morceau qui nous fatigue, là, dans le sens que, justement, avant, tu sais, je reviens avec mon terme de spécialisation appropriée. C'est ouais. Quand est-ce que c'est le temps de mettre tous ses œufs dans le même panier? Puis je te dirais qu'avant secondaire 3, là, on est dans la braquette de 15 ans. OK, là, on sait que t'es bon, on te donne des opportunités. Et avant de pointer du doigt et dire OK, toi, tu t'en vas là, je pense qu'avant 15 ans, c'est très utopique de faire ça. Donc, c'est pour ça que secondaire 1 et 2, donc jusqu'à temps qu'on arrive à peu près à 13 ans, ben oui, faire du multisport, multi-activité, etc. Comme fédération, on envoie aussi, on demande à nos mandataires sportifs, surtout à la période de octobre, novembre, décembre, puisque c'est notre off-season de baseball, ben, présentement, il faut vraiment plus que la moitié de toutes nos activités soient faites en améliorant d'autres habiletés physiques, le jeu, ça peut être les gens disent, c'est important de faire d'autres sports, oui. Mais je te dirais de faire d'autres activités sportives. Est-ce que s'initier à l'haltérophilie, c'est un sport, mais ça peut être une activité physique, tu peux faire plein de choses, des jeux, etc. Donc, il faut vraiment améliorer l'athlète présentement, là. Donc, le baseball, il faut lâcher prise un peu, là, descendre ça, puis arriver, puis construire l'athlète. Donc, dans un monde parfait, il n'y a aucun, puis... C'est quelque chose qui est très dur, là, parce que c'est dur à manager, mais il va falloir se pencher là-dessus bientôt. Il va falloir créer peut-être des multisports en secondaire 1 et 2. Arriver, puis tu fais 2-3 sports différents, 4 sports différents, 5, avec des thèmes à chaque mois, tu sais, un genre de multisport. Puis par la suite, va te spécialiser en secondaire 3 à telle place. La difficulté, Jeff, là-dessus, c'est qu'il y a différentes écoles, il y a différents sports. Tu sais, 1 et 2, tu t'en vas dans une école, puis là, tu choisis le golf. Ben, OK, ben là, tu changes d'école, c'est donné à telle école à la place. Bon, mais là, j'ai mes amis ici, je ne vais pas faire ça. OK, y a-tu moyen de combiner deux sports? Parce que, comme je m'enseigne souvent, puis je donne l'exemple du golf puis le baseball, On est vraiment des sports que si tu nous fais juste frapper dans une cage, juste attraper des balles,
ouais.
juste se lancer, jamais on va nuire à un autre sport comme le hockey. On viendra pas créer d'interférences. T'sais, c'est sûr, si on pratique des sprints puis on brûle les joueurs avec l'entraînement physique, là, on vient de mélanger la donne. Mais nous, on est capable de frapper pendant une heure dans une cage à frapper, puis le soir même, le kid peut jouer une partie de hockey, puis il va avoir les jambes très fraîches, il va avoir même une bonne coordination pour s'en lancer frapper. Fait qu'on a un sport accompagnateur qui est parfait, nous, là, si on ne touche pas la composante physique, on laisse le basketball ou bien le hockey s'occuper de ça, ou même le soccer, si tu veux.
Donc, ouais, tout à fait.
Et évidemment, pour répondre à la dame qui pose la question, ben oui. Le fait de frapper deux fois par semaine pendant le off-season pour quelqu'un qui ne serait pas dans les programmes sport-études, c'est très le fun aussi. Il s'amuse-tu, etc. Faut concevoir qu'au baseball, la joute de baseball ne te donne pas énormément d'opportunités. Tu peux avoir trois balles frappées à toi. Tu sais, on a calculé, je pense, Jeff ensemble, qui avait fait un petit tableau de un arrêt-court qui avait une partie de fou, puis ça donnait un total de 59 secondes d'action.
Ouais.
Tu sais, ça reste ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas dans un match que tu vas acquérir la répétition.
Non, tout à fait.
Donc, c'est ça. Si quelqu'un veut frapper, qui est possiblement, je te dirais, le morceau vos coordinations le plus compliqué qu'il n'y a pas de tous les sports, un des plus compliqués, qui veut frapper deux fois semaine dans des écoles de baseball, dans des endroits qu'on peut frapper des balles, c'est merveilleux. Là. On est loin de la game de baseball comme telle aussi.
Oui, puis je suis pas mal certain que tu l'aurais gardé, mais quand on a reçu Jocelyn Thibault, justement, nouveau DG de Hockey Québec, il nous disait, lui, qu'avant 15 ans, justement, t'sais, développez-vous, faites du sport, puis après 15 ans, quand tu as un talent spécial, là, tu te spécialiseras dans ton sport. Il y avait pas mal la même vision que toi là-dessus. Puis il disait que de plus en plus, lui, ce qui l'étonnait, c'est qu'à partir de 15 ans, les jeunes ont tellement pas fait de sports différents avant 15 ans que là, ils ont de la misère à lancer une balle de baseball. Les joueurs de hockey ont de la misère à lancer une balle de baseball, de la misère à attraper un ballon de football. Ils sont vraiment pas multisports. Ils sont vraiment comme pas développé, pas de talent différent, c'est vraiment concentré sur le hockey. Puis lui, il voyait justement, comme tu viens de dire, là, faites d'autres choses. Pas obligé de vous inscrire officiellement au baseball, au soccer ou à d'autres sports, mais faites des activités, même si c'est de l'haltérophilie ou autre.
Ben complètement. Puis j'ai suivi, évidemment, comme tout bon Québécois, les séries au hockey l'année passée. Puis j'étais assommé de voir des passes captées au vol, des rondelles, de voir les joueurs de hockey être capables d'attraper, que ça faisait partie de leur héritage, d'attraper des rondelles avec le gant, puis mettre ça au sol, puis continuer comme si rien n'était.
Ouais.
Je me dis qu'un sport comme le nôtre, on peut juste rendre meilleur. Tu sais.
Ah oui.
Jeff, mon rêve, évidemment, là, c'est pour les prochaines années, ça serait de créer un sport-étude hockey-baseball ensemble.
Oui, mais j'allais te lancer là-dessus, parce que ça fait quelques fois que tu m'en parles, puis je sais que c'est dans ta tête beaucoup. Mais c'est-tu réalisable? C'est-tu possible?
Ben, c'est la dynamique, mais on a sûrement des saisons pour ça. Là. Les septembre, octobre, on est dehors, on finit, le hockey commence en octobre, on rentre à l'intérieur, on fiche la paix du côté. Tu sais, le baseball devient peut-être frappé deux fois semaine, puis le hockey prend en charge de l'athlète, on l'amène jusqu'en février-mars. Je pense que ça se termine un peu avec la Coupe Dodge, là, puis là, je suis pas érudit au hockey, là, mais donc on arrive à avril, on reprend le contrôle du baseball à ce moment-là, puis le jeune développe beaucoup d'habiletés. À travers ça, il y aurait une complicité qu'il faut qu'il se fasse. Là. T'sais, on parle de chevauchement. Je pense que tu as abordé justement avec Jocelyn le chevauchement des saisons. Mm-hmm. Je pense que tout le monde est sensible à ça maintenant, qu'il faut qu'on trouve le moyen que, OK, fais ta saison de hockey, finis-la comme il faut. Là. Bon, viens chez nous avec le baseball. On est correct? On part-tu bien? Je pense qu'on a une belle complicité là-dessus de plus en plus avec la Fédération de hockey. Là, je pense qu'on est temps de mettre la pédale sur un autre virage un petit peu. Là. Moi, ce que je trouve terrible, Jeff, là, c'est qu'en cinquième, sixième année, on demande à des enfants, à des familles de dire, bon, choisis ton sport. Parce que le cheminement des athlètes en sport-études, il est formidable. Là.
Ouais.
On développe des belles habiletés de vie. Les kids, ce qu'on mentionne malheureusement pas assez souvent, là, c'est que la moyenne de la population qui réussissent à faire leur secondaire, les cinq années du secondaire dans la population au Québec, c'est 72% qui réussissent à terminer leur secondaire en cinq ans. C'est pas tellement, là. 72%. Les chiffres à 90, c'est 7 ans que ça prend à finir le secondaire maintenant. Puis en sport-études, tous les sports-études confondus, c'est 99,4% des athlètes qui réussissent à terminer leurs 5 années de secondaire dans les cinq années
Cinq ans.
prévues. Donc, l'impact scolaire, il est
C'est
terrible, là.
majeur. Ouais.
Il est majeur, là. Puis ça c'est un concept de santé, d'être attentif à l'école, puisque tu en as moins longtemps, puis ta matière est condensée, puis d'une discipline à faire ta boîte à lunch, à te préparer, à suivre une rigueur, un concept. C'est plein de beaux avantages, là. Donc, les programmes de sport-études sont wow, là, en général, là. Mais est-ce qu'on est dû pour un 2.0, on est dû pour un mouvement, de dire, OK, comment qu'on organise encore mieux qu'avant? À ce temps qu'on le maîtrise, qu'on l'a bien ce morceau-là, là, je pense qu'il faut passer à une autre étape, là.
Oui, tout à fait. Il y a Lynn Morin sur Facebook qui dit qu'au sport-études de Rivière-du-Loup, c'est possible de mélanger hockey et baseball, mais c'est très. Il faut que le jeune soit très discipliné, là, c'est un horaire très intense. Est-ce que je me trompe, mais on pourrait aussi, parce qu'on parle souvent de manque de bénévoles. Est-ce que le fait de faire un sport-études, baseball, hockey, on sait souvent les coachs qui sont au hockey vont souvent coacher au baseball l'été et vice-versa. Est-ce que ça pourrait devenir quelque chose justement où est-ce qu'un sport-études hockey-baseball, tu sais, il va y avoir des coachs pour le hockey, des coachs pour le baseball, mais les coachs qui étaient au hockey peuvent venir assistant coach au baseball et vice-versa, tu sais, puis un peu faire en sorte qu'on a une gamme d'entraîneurs beaucoup plus élites et qui s'occupent de leurs jeunes.
Oui, ben écoute, présentement, si on a déjà nos entraîneurs sport-études baseball, on a déjà nos entraîneurs sport-études hockey. Je pense que c'est simplement de s'échanger des athlètes ou peut-être participer, comme tu dis. Écoute, ça fait partie du brainstorming à avoir, là. C'est sûr que c'est pas un matin qu'on va décider ça, mais il va falloir faire un comité de travail si on s'en va dans cette direction-là, faire quelque chose, aller chercher des idées des gens sur le terrain, puis comment ça se fait. Présentement, comme la madame de Rivière-du-Loup spécifiait, on le fait à la pièce dans plusieurs sports-études au Québec. Mais ça reste des cas isolés, il n'y a pas une convention bien établie, il n'y a pas un protocole très clair. C'est on donne un coup de main parce qu'on tel kid a du talent au baseball, il a du talent au hockey, il veut pas encore choisir. Mais tu sais, il y a les coûts reliés à ça. Est-ce qu'on paie les deux sports-études au complet? Ça finit par être cher, là. On fait-tu un mix? Il y a tout cet environnement-là qu'il faut créer. Puis qu'il faut mettre de l'avant. Présentement, on l'a fait à plusieurs endroits. Il y a au moins une dizaine d'athlètes qui l'ont fait des dernières années. Puis les résultats ont été bien le fun. Ils ont été bien le fun. Puis il y en a qui ont décidé d'aller au hockey, d'autres ont décidé d'aller au baseball, etc. Mais c'est maintenir de dire jusqu'à temps qu'on arrive à la fameuse spécialisation appropriée. Lequel des deux que j'ai de l'avance? On a un kid en Mauricie présentement qui est dans le hockey assez avancé. On le sait, on le connaît, on a préparé un scénario avec lui. Il est en sport-études baseball, il est accroché avec nous pendant l'été. On a un plan pour lui. Ben, c'est ça que les détections de talent nous permettent de faire, Jed, d'arriver, puis à 17, 10, à 13, 14 ans, dire à un kid, bon, OK, regarde, lui, là, il a du talent, on aime ce qu'on veut. Il n'est pas question de dire choisir entre le hockey et le baseball, c'est ridicule. Mais on va garder des options. Pour être capable de dire, OK, regarde, si jamais tu veux rentrer encore en baseball, là, on pense qu'on s'en va peut-être vers l'équipe nationale 18 ans et moins, on pense qu'on a peut-être ça comme option. Continue au hockey, fonce au hockey, c'est notre sport national, tu as des beaux attributs, il y a certaines étapes qui t'amènent vers le junior majeur, etc. Mais on t'a à l'œil, puis garde, nous, on ne te laisse pas tomber, on continue avec toi, puis on te ramène avec nous si tu changes d'idée.
Oui, puis en même temps, tu sais, je pense aux athlètes américains. Tu sais, je pense à un LeBron James, par exemple. C'est sûr que c'est un surdoué, mais tu sais, il est allé à l'université, puis il jouait au basket, puis il jouait au football aussi. Tu sais. C'est plus top, excuse-moi, pas à l'université, parce qu'il n'a pas été à l'université. Au secondaire, il joue au football, puis au collège, au basket, puis il a quand même performé grandement. Puis aujourd'hui, on dit qu'il aurait pu faire une carrière au football. Puis il y a plein d'athlètes qui ont performé, mais c'est plus que 13, 14, 15 ans. C'est jusqu'à la fin du secondaire qu'ils ont joué aux deux sports. Fait que je pense que
Ouais.
c'est possible de.
Oui, par contre, il faut faire attention à ces données-là, Jeff, parce qu'il y a certains joueurs qui continuent à faire d'autres sports, si tu veux, deux, trois sports, mais des fois, ils font beaucoup plus d'une forme récréative. Ils
OK.
font pour s'amuser, puis peut-être pas dans l'élite. Un gars comme James,
Oui, c'est
même au dard,
l'exception.
il doit être bon. Là,
Oui, c'est ça.
j'écoute, sérieusement, là, encore une fois, je suis pas un connaisseur de basket, mais voir un gros bonhomme comme ça être si agile sur un court, c'est quelqu'un qui a des habiletés, là, je veux dire, c'est le fédéral du basket, là, je veux dire, il flotte sur un tapis roulant, on dirait des fois, ça n'a pas de bon sens. Là. Donc, là, on parle vraiment d'une erreur de la nature, en guillemets, là, tu sais, il est vraiment particulier. Là.
Il y a Marco Lizotte sur Facebook qui demande si le multisport doit être encadré autant que le sport principal du jeune, selon toi.
Je pense que oui, c'est important que si on fait ça pour développer un athlète, ben tu veux qu'on développe justement l'athlète. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs facettes, il faut qu'il y ait l'entraînement relié à sa santé, relié à sa croissance. Il faut que tu aies des gens qui ont des connaisseurs, qui ont des connaissances au niveau de l'entraînement, etc. T'sais. Tu veux qu'en faisant plusieurs sports, que le jeu, que les kids s'amusent. Puis tu veux aussi qu'il y ait un développement d'un athlète là-dedans. Fait que ça aussi, c'est pas rien que amuse-toi, puis on va voir dans 9 mois que tu as aimé faire. C'est de donner vraiment des outils pour bâtir l'athlète en premier lieu. Là. J'aime bien l'expression de dire en secondaire 1 et 2, j'essaie de bâtir mon athlète qui joue au baseball. Puis après ça, en 3, 4, 5, j'essaie d'améliorer mon joueur de baseball qui va devenir un meilleur athlète aussi. Là.
Ouais. Là, petit message à Martin qui nous écoute en arrière. Là, je prends quelques minutes de plus parce que j'ai bien des questions et c'est intéressant. Fait que on va juste dépasser le 9h. J'ai Michael Breyer qui nous dit que les États-Unis sont des années-lumière selon lui en termes de sport scolaire, tant au secondaire, collégial, universitaire. Es-tu d'accord? Puis deux, pourquoi c'est comme ça? La structure est différente, c'est clair, mais y a-t-il d'autres raisons?
Ben, le sport en général passe par les écoles. Tu sais, le côté civil et récréatif, il n'est pas tellement exploité à l'extérieur des écoles. Donc, aussitôt que tout le milieu scolaire s'approprie le sport, ben, ça vient de changer un petit peu la donne là-dedans. Là, tu sais. Puis, ils ont beaucoup de respect par rapport au chevauchement des saisons.
Okay.
Fait que ça, ils font très attention là-dessus en général. Donc, je te dirais qui se font du sens présentement. Où ce qui commence à l'échapper un petit peu, je te dirais, c'est le fait que le développement des habiletés se fait au détriment du win-win-win, de gagner ouais. des matchs. Ils sont un peu là-dedans parce que, évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu dans le sport aux États-Unis. La NCAA, c'est une mafia sportive, ouais, c'est ouais, absolument ouais. débile. Puis il y a beaucoup d'argent là-dedans. Puis quand tu parles des entraîneurs de haut niveau, ils font beaucoup d'argent. Puis on l'a avec nos gars de l'ABC qui s'en vont dans des collèges américains. Puis des fois, quand tu poses des questions au coach, nos parents posent des questions au coach. On leur demande, OK, au niveau de développement, qu'est-ce qui va être fait, vers quoi qu'on s'en va. Puis le coach va dire qu'il y a le plus haut pourcentage de victoires dans sa division. C'est ça qu'il
mais
c'est de gagner, etc. Donc, t'as beaucoup des athlètes européens en basket qui ont développé plus d'habiletés, plus de skills de jeu qui viennent en Amérique. Puis en Amérique, ben, les plus grands sont encore des kingpins puisqu'ils sont plus grands, mais ils ont moins développé d'autres joueurs. Puis je te dirais que tous les pays qui sont... Tu sais, le Canada a vécu ça avec le hockey. Il n'y a rien qui bougeait jusqu'à temps que les Russes viennent nous tasser dans les années 70. Là, présentement, le problème de développement du hockey d'équipe nationale, là, c'est quelque chose. Là. Dernier ouais. repêchage, tout le monde se fait repêcher. Ils font des choses qu'ils ont dit, OK, on va limiter le nombre de parties, on va moins gagner, mais on va développer des habiletés, on va développer tout ça. En général, les sports qui sont rois ont tendance à s'asseoir et à attendre que les autres pays innovent. Tu sais, ils n'ont pas besoin d'innover, ils sont les meilleurs au monde. Puis le baseball, présentement, on a un petit peu ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de pays qui arrivent avec la science un peu plus, qui arrivent avec des habiletés. Puis remarque que tous les sports commencent aussi à se mondialiser. Là, ouais. Ça change aussi la donne. Mais oui, effectivement, je te dirais, du côté américain, il y a des choses à regarder, il y a des choses à éviter comme tout. Là. Le truc est... Puis c'est un peu ça, le rapport Better Sports a pris beaucoup, beaucoup d'exemples. La firme qui a parrainé notre projet là, de changement, ils ont pris beaucoup d'exemples ailleurs sur la planète de ce qui se faisait, de bonnes pratiques. Puis avec les recommandations qu'on a eues, ben, on va essayer d'imiter ces bonnes pratiques-là.
Oui, tout à fait. Pour le baseball, j'allais juste ajouter qu'il y a beaucoup de Tommy John. Tu sais, quand les jeunes arrivent, ben, les jeunes de 25 ans, là, les lanceurs, ils arrivent et ont des Tommy John très jeunes dans leur carrière. Fait que c'est un peu un lien avec performance à l'université. Tu
sais. Ben, c'est là que le fameux contrôle des lancers, il y a deux, trois morceaux qu'on pourrait faire un autre demi-heure avec là-dessus.
Non, ouais, c'est ça.
Le contrôle des lancers, tu sais, tout le monde le voit comme protéger les bras des enfants et tout ça. Puis oui, Mais en même temps, je te dirais, c'est beaucoup pour créer d'autres lanceurs. Il fallait lancer d'autres joueurs, d'autres habiletés. Et au final, il faut répartir le nombre total de manches dans une année entre plusieurs athlètes là, pour éviter justement une surutilisation puis tout ça. T'sais, autant en natation, on a des problèmes d'épaule, etc. On a des problèmes au tennis, au niveau des coudes et au golf même. Tous les sports ont son lot de blessures. Fait que c'est là l'importance de bien mettre dans l'année du renforcement musculaire, de frapper un peu moins, de frapper de l'autre côté, ce côté opposé, juste pour la ceinture, les obliques, la ceinture pelvienne, tous les muscles stabilisateurs du tronc, de donner un coup de main, renforcer ça. Donc, c'est tout ça qui doit être adressé dans un programme annuel pour un athlète.
Ouais. Je te lance une dernière question, je m'en voudrais de ne pas te la poser. Est-ce que la détection de talent pour les gars et les filles au baseball au Québec, c'est la même chose, c'est le même procédé, on n'a pas les mêmes programmes, mais est-ce que c'est un peu
Non,
la même chose?
ça se ressemble. Écoute, présentement, on est en train de refaire toute notre. On fait une refonte, là. Donc, on va refaire notre modèle de détection à partir de quand qu'on le fait, pourquoi qu'on le fait, etc. Celui des filles va faire partie aussi de ça, puis il faut l'adresser. On sait qu'évidemment que les filles, j'en prendrai pas personne, que leur croissance est plus rapide que les garçons. Donc, on peut peut-être identifier plus tôt. Mais vu qu'on est présentement un peu du côté embryonnaire, on n'a peut-être pas assez de membership pour être capable de tirer des grandes lignes, mais on va se coller sur les gars de plus en plus pour les opportunités, sauf qu'on peut se permettre de peut-être attaquer plus tôt, plus tard, là, dépendamment de qu'on veut faire. Mais évidemment, il faut que ça soit adressé, il faut qu'on ait un plan de développement très, très bien construit pour les filles aussi, parce que c'est une clientèle qui est en croissance chez nous, là.
Tout à
Puis
fait.
on veut vraiment gâter nos filles, là. On veut que nos filles passent dans un circuit et qu'elles disent waouh, c'est donc bien le fun ici, puis je suis en train de m'améliorer, puis bravo,
Hey, merci Sylvain. On a dépassé notre demi-heure, mais les gens sont en feu là, sur Facebook. Là. Beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Fait que c'est tout le temps des sujets intéressants. Tu vois, t'es rendu notre gars populaire. Là.
là. Je suis le gars pop. Je suis la saveur du mois, Jeff.
La saveur du mois. Ben, en fait, je suis en train de dire la saveur de l'année quasiment. Quand on augmente d'une coche. Là.
C'est
Sylvain, je vais inviter les gens avant de te laisser aller. Je vais inviter les gens à faire comme toi, tu as sûrement fait, hein, parce que tu es un gars très à jour, mais d'aller s'abonner sur la page Facebook du show du matin, puis de s'abonner à leur podcast préféré, là, que ce soit Spotify, Apple Podcast, et même d'aller sur le site Internet de Radio H2O. Martin va mettre tous les podcasts audio à partir de midi, là, pas tous les podcasts, mais à partir de midi, l'entrevue actuelle va être disponible. Donc, faites comme Sylvain, puis allez vous abonner aux réseaux sociaux. Sylvain, un gros merci, puis on se revoit, nous autres, demain, au bureau.
All right.
Salut, Sylvain.
Bonne journée, Dieu.
Salut.
De la famille H2O Web Media.